Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC.
15h-18h.
Le Super Moscato Show. Vincent Moscato.
Il est 15h07, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. On est là, vous le savez tous les jours, 15h-18h, vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur RMC. On est avec celui que toutes les télés régionales nous envient, The Last Dance, Denis Charvet. Comment il va, Denis?
Salut Vincent.
Comment ça va? En forme ou quoi?
Ouais, impeccable, tout va bien.
Tout va bien.
On va parler basket.
C'est bien. On va parler basket. Et pour ça.
Parce que Tourtel, c'est la bière. Tu le sais.
Ah oui, Tourtel, c'est la bière.
La bière, c'est l'alcool, d'ailleurs, je crois.
Pour ça, on devait prendre un spécialiste. On n'en a pas trouvé, donc on a pris le Stifoulet Brun qui est avec nous. Comment il va, le Stifoulet?
Salut Vince. Écoute, ça va, en pleine forme. On va parler basket. Je suis pas sûr qu'on parle réellement de basket.
On va parler de
géopolitique, là. Pim, pam, là, crac. Là, je me déguise en Calvi. Là, c'est dernière et ça envoie du pâté, je te le dis. Adrien.
Oui, Vincent, ça va?
Voilà. Et toi, mon petit poulet?
Très bien.
Qu'est-ce qu'il dit?
J'en
reviens à cette victoire hier qui a été
magnifique.
Magnifique victoire hier. Denis, t'as été bon. On était bon.
Le résumé de ce qu'il dit, c'est quand je suis pas là, Eric ne peut pas gagner.
Est-ce que je pourrais avoir les stats d'Eric quand il est en studio?
Quand même, parce qu'on a eu un magnifique Virginie Elfira sur la table de match.
Ça a été accepté, c'est vrai.
Elfira, ça va. Mais parce que Elfira, c'est ça, c'est l'espagnol.
Ne pas comprendre avec Elvira.
Nous avons vécu un moment extraordinaire dans le Kikadi d'hier. Nous revivrons ça dans le journal moyen à 16h45. Ah. Deux auditeurs qui sont les révélations de la saison.
Quelle question.
Tu sais que Pierrot m'a avoué quand même, quand Eric est en studio, il est beaucoup moins bon.
Il est nul.
Mais il faut se poser des questions.
C'est curieux quand même.
Alors que quand Vincent n'est pas là, il est bien meilleur.
Et ça fait une moyenne, mon pote. C'est pour l'équilibre de notre émission.
Les bleus du foot joue ce soir à quelques semaines de la Coupe du Monde. Question moyenne, Coupe du Monde. Finalement, pour cette World Cup 2022, quel est le plus probable pour les Bleus de Deschamps? Élimination à l'issue de la phase de groupe, version 2002. Les champions du monde 2002 qui sont éliminés, souvenez-vous. Ou champion du monde? Le scénario le plus probable selon vous?
Éliminé, automatique, quoi. C'est plus facile d'être éliminé que d'être champion du monde.
Vincent,
voilà. Ça, c'est une logique imparable.
C'est le théorème de Dorian.
Le théorème de Dorian.
Comme Vincent.
Parce que mine de rien, même si tu sors des poules et que tu perds en quart, la finalité, elle est pas bonne. Donc la probabilité, c'est de pas sortir. Maintenant, si on sort pas des poules.
N'oublions pas que c'est pas du sport de haut niveau. Donc n'importe qui, comme la Croatie, pour arriver en finale, on peut te taper.
Comme le rugby, ne pas sortir
de la phase de groupe, c'est l'accident de 2002. C'est la meilleure équipe du monde qui est éliminée en phase de poule.
Ça prend déjà gagné au rugby.
Vous répondez éliminé à l'issue de la phase de groupe de poule, 65,7%. On fera la même en rugby demain, tiens, si vous voulez.
Non mais attention, Denis, il y a trois matchs à gagner. On a l'Irlande, nous, dans notre poule, non?
Non, pas du tout.
L'Irlande en quart.
Qui c'est qu'on a dans notre poule?
Les Blacks, l'Italie.
Donc il y a trois matchs à gagner pour être en finale. Moi, je veux bien quand t'as les Blacks et qui d'autre dans notre poule?
L'Italie
qui nous a jamais battu de notre vie. Et les Blacks qui nous ont jamais battu.
Apparemment, c'est des
poules. Et puis, bien entendu, en quart de finale, t'as l'Irlandais, c'est pas du tout du niveau, c'est du plénaire, ou l'Afrique du Sud, c'est du super plénaire, c'est la récré.
Mais vous les connaissez pas ou quoi? Si t'as peur de tout, faut pas y aller, Vincent.
Alors, si j'ai envie de dire, pour être champion, il y a qu'un match à gagner, c'est la finale.
Si tu perds contre les Blacks, tu te retrouves en quart contre l'Afrique du Sud, et si tu gagnes, en quart contre l'Irlande. Donc, quoi qu'il en soit, il faut gagner quart, demi et finale.
Voilà, il y a que trois matchs à gagner.
Mais pour être champion, il faut gagner quart de finale dans tous les sports.
Après, tu t'es énervé tout seul.
Non, je me suis énervé parce que.
Tu pensais Eric n'est pas là, je vois pas pourquoi je m'énerve, il n'y a pas Eric.
Allez, vas-y, continue.
Alors, au programme, comprenez-vous Thomas Hurtel? Alors, attention. Calfeutrez-vous, faites bien attention, prenez toutes les mesures de sécurité. Le Moscato Show va faire de la géopolitique dans un instant. Hein. Donc méfiez-vous.
Je voulais finir. Je voulais finir. Il y a 3 matchs à gagner. Si tu prends un quart. Non, mais laisse-moi finir. Tu prends. Mais non, mais ça, c'est le très haut niveau. Voilà, c'est la différence que je voulais vous dire. C'est que c'est pas des sports de plein air. Tu prends Deontay Wilder. Tu prends Joshua et après Tyson Fury. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vas-y, ça fait 3. Voilà, ça fait 3.
Et puis à 16h,
il y a 3 matchs à gagner.
Pablo Longoria est-il un bon président pour l'OM ? Vincent règle le problème sur RMC. Et oui, on va remettre en cause Pablo Longoria qui est adulé à Marseille. Ouais. 17h, Didier Deschamps a-t-il condamné Giroud pour la Coupe du Monde ? Vous écouterez le sélectionneur et vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est cuit pour Olivier Giroud ? Apostrophe Adrien.
La ville de Marseille se rebelle. C'est une ville rebelle. Éric Dimeco sera avec nous pour analyser cette situation.
Et dans le Kikadi, nous avons à nouveau un week-end pour 2 personnes dans un casino et hôtel Partouche à vous offrir. Pour participer, vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Tout de suite, mais pourquoi partir vivre en Russie, Vincent ?
RMC, le Super Moscato Show.
En plein cœur de la Sibérie, Yakoutsk, la ville la plus froide au monde.
C'est vrai que c'est magnifique, je viens chaque année. C'était un vrai, vrai plaisir de me retrouver ici.
En hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 64 degrés.
Je veux dire, la nature est tellement forte, les gens en sont imprégnés, ça fait une qualité de vie qui est incroyable et qui se ressent chez les gens dans la mentalité aussi.
Ce soir, il organise avec ses amis un apéro typiquement russe.
Voilà, c'est ma seconde patrie, on va dire. Chaque année, je dis je vais partir ailleurs en vacances.
Breaking news.
Joli duo.
Donc, moins 64 degrés. Comment tu peux vivre là-bas?
Je fais
de la cryothérapie. Moi, c'est gratos.
Ah, c'est fou. Hein. C'est dingue. Hein.
On va parler basket dans cette émission. Thomas Hurtel tourne le doigt à la sélection et notamment aux Jeux de 2024 pour signer en Russie le club, le Zénith Saint-Pétersbourg. Comprenez-vous Thomas Hurtel? 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live. Sarah Griffon, bonjour.
Bonjour à tous.
Hurtel, comme tous les joueurs et toutes les joueuses de l'équipe de France, avait signé un engagement sur l'honneur, attestant qu'il ne signerait pas ni en Russie, ni en Biélorussie. Et du coup, il s'exclut de lui-même de l'équipe de France.
Oui, il avait signé cette attestation sur l'honneur fin juillet. Et juste avant de partir pour l'Euro, voilà ce qu'il déclarait. C'est toujours un honneur de porter le maillot bleu. Pour l'instant, je suis en équipe de France. Je suis focus dessus. Vous m'avez demandé si j'avais bien signé. Je l'ai signé, cette attestation. Pour l'instant, je suis concentré sur l'équipe de France. Et le pour l'instant, du coup, a pris fin hier, alors que le Zénith Saint-Pétersbourg officialisait la signature de Thomas Hurtel pour une année avec une autre en option. Une annonce faite seulement 3 jours après la finale perdue de l'équipe de France lors de l'Euro. Plusieurs questions se posent. Les négociations avaient-elles débuté avant la compétition ? La signature a-t-elle eu lieu pendant cet Euro ? La fédération se dit choquée et assure n'avoir été informée qu'un contrat avait été signé ou était en cours de signature. D'autant plus que Thomas Hurtel avait signé l'attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'était pas engagé et qu'il n'envisageait pas de signer avec un club russe ou bélarusse. A priori, Thomas Hurtel a donc changé d'avis et de ce fait ne portera plus le maillot bleu jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'il décide de ne pas activer son année de contrat en option. Il serait donc libre de tout contrat à la fin de saison, disponible donc pour la Coupe du Monde en août 2023. Mais là, on ne voit plus trop l'intérêt de cette attestation sur l'honneur.
Oui, et puis il faudrait que la Fédé, du coup, l'accepte. Oui, parce que, pour le coup, la Fédé peut se sentir trahie dans cette histoire. Vincent, est-ce que tu comprends Thomas Hurtel ? Pas de Jeux Olympiques, mais un bon contrat en Russie ?
Oui, je le comprends, oui. Quel âge il a, Thomas Hurtel ?
33.
Je comprends, 33 ans, il est professionnel, il pense à son avenir, il pense à l'oseille, il faut qu'il engrage sur 2-3 ans, il met une croix après les Jeux Olympiques, après les leçons de respect de tout le monde, ça je m'en passerai, jouer les vierges effarouchées, je sais que c'est très à la mode, je m'en passerai aussi, donc je le comprends complètement, il s'élimine de lui-même, la sanction est déjà très lourde, c'est le prix à payer, c'est de s'éliminer de l'équipe de France, crois-moi je l'ai été éliminé de l'équipe de France, crois-moi qu'il n'y a pas plus grosse sanction, alors après les histoires de respect, de pas de respect. Je pense qu'il a signé après les Jeux ou pendant les Jeux. Pendant qu'il a fait les Jeux, les championnats d'Europe, il n'avait pas signé à Saint-Pétersbourg. Et puis voilà. Et puis après, c'est un professionnel. Dans le professionnel, il y a le sportif et l'oseille. Et plus tu vieillis, Pierrot, plus tu cherches le contrat parce que tu sais très bien, humainement, que les carrières sont courtes et que dans 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, il est free. Il va falloir aller être sur le monde du travail. Et on sait bien que le basket européen, tu gagnes très très bien ta vie, mais il n'a pas 100 millions de côté comme Boris Diaw ou Steve Fulébrin. C'est pas pareil. Donc il va falloir qu'il gagne sa vie. Moi, je jette pas la pierre. Il fait son choix. Il s'élimine déjà la sanction de plus être en équipe de France, de pas faire les Jeux Olympiques. Elle est dure. Elle est très dure. Donc on va pas en plus.
Elle est très dure, mais il le sait, mais ça.
Il le sait. Moi, je trouve que il est courageux, il prend son engagement. De lui-même, il choisit l'oseille. C'est honnête. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais à 33 ans, encore une fois, t'as une famille à nourrir. La vie, c'est pas des raisonnements, hein. Ne crois pas, c'est pas des oh oui, gna gna gna. Là, il faut y aller au mastic, faut prendre encore un contrat ou deux, parce qu'après, il n'y a plus rien. Tu te retrouves dans ta cuisine et il n'y a plus une thune qui rentre. Donc, je sais ce que c'est, donc je le comprends.
Denis, et le frigo vide.
Et le frigo moyennement.
Écoute, vide. Non, j'ai une question pour Stephen ou pour toi, Pierre. Est-ce qu'il a eu d'autres propositions ou pas? Est-ce qu'on le sait déjà avant de démarrer?
On ne sait pas s'il a eu d'autres propositions. Après, Thomas Hurtel, ces deux dernières années a été un joueur de Barcelone et ça s'est très mal fini avec son coach. Il est ensuite passé au Real Madrid. Ça s'est très mal fini parce qu'il a eu une petite virée nocturne lors d'un match de Euroleague au Palatinaikos, attrapé par la patrouille et mis un petit peu de côté au Real Madrid. Donc, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de grands clubs européens en Euroleague qui étaient très chers.
Non mais moi par rapport à Laurent, Thomas, à Vincent, pardon, elle est pas dure la sanction. À partir du moment où c'est lui qui décide, elle est pas dure du tout. Toi Vincent, t'as pas décidé, on t'a viré, t'es jamais revenu.
Oui,
donc, c'est pas la même. Et puis il a 33 ans, donc lui.
Il a eu un choix à faire.
Ben, il a eu un choix à faire. Son âme et conscience, c'est ça que tu vois ce que je veux dire.
C'est pas pour ça que c'est pas difficile de faire un choix.
Et moi je pense que c'est difficile pour l'équipe de France. C'est pas un peu difficile pour lui. Lui c'est lui, et lui il a choisi, c'est son choix.
C'est un joueur essentiel des Bleus.
Non mais après, ben oui, donc. Lui, quand même, quelque part, il y a quand même une trahison de sa part. Surtout si les dirigeants n'étaient pas au courant, s'il l'a pris au dernier moment, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu négocier avec lui, qu'ils n'ont pas pu avoir le choix de.
Oui, toi, tu dis, il fait ce qu'il veut, il assume, mais il a quand même un.
Il a quand même été
ambigu avec les Bleus. Et puis, il a signé le document.
Moi, j'aime jamais des sportifs qui s'en demandent d'eux-mêmes de l'équipe de France. Ça, j'ai un truc que je ne comprends pas. Et en faisant ça, écoute-moi, il le fait décemment, je suis désolé.
Denis, ça n'est pas l'oseille. Denis, nous, on était payé une poignée de main. Donc, à une poignée de main, tu t'en vas pas de l'équipe de France.
Mais c'est pour ça que je me demandais s'il y avait un autre club.
Là, il se dit, faut faire attention. D'après moi, il n'a pas d'autre club et il a un contrat qui est peut-être sûrement beaucoup plus alléchant qu'il n'a eu jusqu'à maintenant.
Après, c'est un garçon qui, durant sa carrière, parce que ça a été un des meilleurs meneurs d'Euroleague depuis 10 ans maintenant. Thomas Hurtel, on parle d'un contrat sur 2 ans, Zenit Saint-Pétersbourg, à 1 million la saison. Donc, c'est quand même un énorme contrat.
Les joueurs en ce moment pour ne pas disparaître puisqu'ils sont exclus de l'Euroleague.
Donc tu veux dire, Stephen, qu'il ne peut pas avoir un contrat équivalent en Europe aujourd'hui? C'est une question. Moi,
je pense que c'est compliqué. Un contrat moyen en France, c'est combien?
En France?
Oui, ça dépend. Pour ce standing de joueurs.
Il y a deux gros clubs en France.
Pour ce standing de joueurs.
France, je pense que Monaco ou Asvel auraient pu mettre 500, 600, 700 000 euros la saison.
Oui, mais lui, il n'aurait pas joué en France. Il a des propositions, il a le niveau pour jouer dans d'autres pays européens.
Oui,
d'un standing très important.
Il a fait un passage à l'Asvel à la fin de son cursus à Barcelone parce que Barcelone l'avait mis de côté. Il est venu finir la saison à l'Asvel, mais Thomas Hurtel n'a pas vraiment une énorme attache avec la France. Thomas Hurtel, il habite en Espagne avec sa femme, avec ses enfants. Thomas Hurtel, lui, c'est un garçon qui est très particulier, ni Dieu ni maître, qui s'en moque totalement de ce qu'on pense de lui. Sur le terrain, c'est un garçon qui parfois ne peut en faire qu'à sa tête. C'est pour ça que parfois avec Vincent Collet, ça a du mal à matcher, parce que c'est un garçon qui peut s'arrêter à 3 points au bout de 5 secondes et tirer alors que Vincent Collet demandait Mais c'est aussi ce qui fait la qualité du joueur. Maintenant, moi comme Vincent, je peux comprendre. Qui vous dit qu'aujourd'hui, Thomas Hurtel, dans sa tête, cet Eurobasket n'était pas sa dernière compétition avec les Bleus. Qui vous dit
c'était
son choix. Moi, il y a quelque chose. Il y a une vraie interrogation là-dessus, c'est que il y a 2-3 mois, avant le rassemblement de l'équipe de France, il y a des insiders comme nous, on a des insiders dans le foot, Fabrice Hawkins et compagnie, qui avaient sorti des informateurs comme quoi Thomas Hurtel et Zenit Saint-Pétersbourg avaient trouvé un accord.
D'accord.
Moi, je m'interroge sur la Fédération française de basket et ses dirigeants au moment de la rencontre avec Thomas Hurtel sur cette signature de la charte. Est-ce qu'ils ont vraiment dit à Thomas Hurtel?
Ils n'ont pas voulu voir.
J'ai l'impression qu'il y a une petite politique de l'autruche.
Voilà. Ils auraient voulu voir à l'Euro et puis après on verra quoi pour la suite.
Est-ce qu'ils lui ont vraiment posé la question à Thomas? Tu es sûr? Regarde-moi les yeux dans les yeux, tu es sûr de ne pas aller en Russie? Je ne sais pas.
Oui, mais après, j'affirme rien. Mais dans la mesure où c'est formalisé par un document, à la limite, peu importe. C'est-à-dire que ce que tu dis, ça s'est probablement passé. Bien sûr. Mais ils sont une quinzaine, voire plus concernés. Il y a aussi les filles, donc ça fait 30, peut-être 40 sportifs à gérer de ce point de vue-là. Eh ben, avec un document, bon, bah, tu n'as pas à te poser de questions. C'est soit tu signes, soit tu signes pas. C'est blanc ou noir.
Oui, il a raison.
Il a signé.
Oui, il avait signé.
Oui, il a signé peut-être qu'il avait. On lui a demandé s'il n'était pas engagé dans un autre club. Il n'était peut-être pas engagé.
Oui, d'accord.
Il y a peut-être ces jours-ci.
Mais c'est l'interrogation de Stéphane.
Peut-être qu'il était engagé.
Mais il y a l'intention de signer aussi dans.
Oui, oui, mais tout le monde le savait. Écoutez-moi, tout le monde le savait.
Peu importe, tout le monde le savait. C'est justement ça la différence entre tu signes ou tu signes pas. C'est que ça évite les non-dits, les malentendus.
S'il n'avait pas. S'il n'avait pas signé, il est dans son droit, il est honnête. Et on lui a demandé, est-ce que tu as signé dans un autre club? Il a dit non. S'il a signé hier,
oui, as-tu l'intention de signer?
Non, c'était signé. Ah oui, l'intention. Ou signé dans l'avenir.
Alors moi, je retourne la question, est-ce que vous êtes sûr que je vous ai rien dit et que vous n'avez pas eu vent de ce que j'allais faire? Voilà. Donc,
le seul intérêt de ce document qui ne vaut pas grand-chose en fin de compte, c'est une sorte d'engagement. Voilà. C'est un engagement, c'est-à-dire c'est un contrat qui ne vaut rien en termes juridiques, qui est plus un contrat moral finalement. Voilà, c'est tout.
Est-ce que t'as jamais fait des fausses déclarations d'impôts, Pierrot?
Non, jamais.
Après, Pierrot, époque du Covid, tu faisais des déclarations toi-même pour dire je sors voilà, parce que j'apprenais mon chien, t'avais pas de chien. Donc, le fausse déclaration.
Bon, d'abord, c'est faux et ensuite, ça n'a rien à voir. Mais,
après, on fait le débat sur Thomas Hurtel. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques semaines, il y avait un garçon qui a joué les championnats du monde avec le volley qui s'appelle Grebennikov, qui est lui aussi joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui est engagé depuis 2021. Et il a fait partie de cette équipe de France. Et il retourne avec le Zénith Saint-Pétersbourg aujourd'hui.
Mais la Fédé n'a pas demandé aux ces joueurs de ne pas jouer en Russie.
Je sais pas pourquoi déjà la Fédé. Moi, ça va faire partie du ministère. C'est le ministère qui doit imposer aux fédérations.
Là, écoutez, c'est la Fédé qui a décidé en tant que Fédé.
Oui,
de dédicater cette charte.
Curieux parce que moi, ce qui me dérange un peu, c'est que le Zénith Saint-Pétersbourg, c'est une entreprise privée. Oui. Si tu défends les intérêts du Zénith, tu défends pas les intérêts de Poutine. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Moi, c'est ça qui me pose
dans cet engagement.
Thomas s'engage avec le Zénith,
qui est très curieux.
Très loin de cette guerre en Russie.
Comme si ça servait le régime russe. C'est ridicule.
Le rapprochement.
Même si c'est Gazprom, le sponsor du Zénith Saint-Pétersbourg.
Ah ouais, d'accord.
En fait, c'est pas une entreprise d'État, on est d'accord.
Oui, en ce moment, tout le monde veut laver plus blanc que blanc. Hein, quand on parle de la Russie, tout le monde, les fédérations, surtout, ils veulent. C'est les blanches colombes, tu le sais bien. Et t'as raison, Pierrot, encore une fois, c'est une entreprise privée qui, ma foi, n'a rien à voir avec
le CSKA Moscou. Le CSKA Moscou, c'est un club État, c'est le club de l'armée russe. Le Zénith Saint-Pétersbourg, pas du tout.
Bon, on va donner la parole à Benoît qui a composé le 32-16 pour participer à ce débat. Salut Benoît.
Ouais, ça va Benoît.
Est-ce que tu comprends Hurtel qui tourne le dos au bleu pour son contrat au Zénith?
Ouais, alors déjà, petite dédicace à David Cosette et j'ai envie de dire Thomas, donne-moi ton short parce que moi Thomas, je te soutiens à 100%. Thomas, tu fais ce que tu veux. Thomas, t'as un contrat de travail à aller chercher en Russie. Le basket, c'est ton job. Donc la Fédé, là-dessus, elle a rien à dire. D'ailleurs, c'est discriminatoire de la part de la Fédération française d'avoir obligé les joueurs à signer une telle attestation. Je trouve ça affligeant, d'autant que...
Ça peut se comprendre aussi, Benoît. Oui, les clubs russes sont exclus des Coupes d'Europe par la Fédé internationale.
Thomas Hurtel est un basketteur professionnel. Thomas Hurtel cherche un contrat de travail. Thomas Hurtel cherche un contrat de travail, réussit ce contrat de travail. Donc on n'a rien à lui reprocher, on n'a rien à lui dire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que il sait très bien, Thomas Hurtel, que l'avenir en équipe de France avec Vincent Collet, c'est fini. Et qu'aujourd'hui, Vincent Collet veut laisser la place à Malédon.
Je ne suis pas sûr.
Vu comment il l'a benché, on peut estimer, mais je pense qu'il est en train de mettre en couveuse un garçon comme Hugo Besson aussi. Donc il est clair que Thomas fera pas les JO.
Il a donné. J'avais vu qu'il avait donné.
Après, il y a une vraie carence, Benoît, aujourd'hui sur le poste de meneur de jeu en France. Et je te parle de carence sur les termes sur le haut niveau européen.
Clarence,
on est d'accord, Christian. On est d'accord, Stéphane, pardon. Mais oui, c'est ton papa.
Oui, c'est mon papa, Christian.
Parce que j'ai défendu contre ton papa, Stéphane.
Ah, d'accord.
Voilà.
Très bien. Il était bon, son père.
Pardon ?
Il était bon, le père, Stéphane.
Ah, oui, c'était un bon petit joueur, Christian. Mais oui, avec Abdou.
Quand tu dis un bon petit joueur, c'était le pompe, j'ai compris.
Il était poli.
Ok, Benoît, tu soutiens à 100% Thomas Hurtel. Merci pour ton appel.
Après, c'est le dernier gros contrat de Thomas Hurtel à 33 ans. C'est la dernière fois qu'il pourra
prendre. C'est ça. Après, il va chercher.
La Fédé, il me faut rire parce qu'ils ont déclaré en Australie, à l'AFP, à des journalistes de nos confrères de l'équipe, que si Thomas Hurtel n'honorait pas sa deuxième deuxième année qui est optionnel, le bureau fédéral déciderait s'il peut de nouveau être sélectionnable pour la Coupe du Monde.
C'est un peu hypocrite tout ça quand même.
Ouais. Oui, t'as raison, Pierrot, c'est bien de le souligner.
Voilà. Et après, il se prive quand même, enfin sportivement, il assume, il faut l'assumer à son âge.
Oui, mais je crois qu'il se sent peut-être un peu au bout avec
l'Euroleague. C'est-à-dire qu'avec le Club Brugge, il ne pourra pas jouer la plus belle compétition européenne, l'Euroleague.
Il fait un choix et dans ce choix, il cherche le contrat de travail sur 2 ans, 3 ans pour finir avec
dans
avec
une heure, on parlera de la première du premier match et de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde féminine, donc face à l'Australie, pays organisateur. Mais d'abord, c'est le rugby. Ronan O'Gara doit-il changer d'attitude? Oui. À tout de suite.
Ouais, lui aussi, il est venu chercher l'oseille, manger le pain des Français, Pierrot. Ça, c'est une honte. Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, 15h-18h, le Super Moscato Show.
RMC,
15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. Il est 31 de 15h, bien sûr, avec The Flower from Cahors, Steve Foulébrin, Adrien Aiguet, mon petit Pierrot dans 30 minutes. Fais-moi claquer le programme.
Pablo Longoria est-il un bon président pour l'OM? Vincent règle le problème et on vous attend, supporters marseillais, au 32-16. D'abord, c'est l'heure du rugby.
RMC, le cri de gueule
du Super Moscato Show.
Et nous accueillons Pierre-Laurent Gou du Midol. Salut Pierre-Laurent.
Oh. Bonjour à tous.
Nous allons parler d'un personnage du top 14. C'est Ronan O'Gara, le manager de La Rochelle, qui vient d'être suspendu 6 semaines par la commission de discipline, avec Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut à toutes et à tous.
Alors, c'est son comportement lors de Lyon-La Rochelle qui est en cause. Et surtout, c'est un récidiviste, O'Gara. Peu de monde le supporte dans le rugby français, mais il fait gagner son équipe, puisque La Rochelle, non seulement est champion d'Europe, mais déjà en tête du top 14 après 3 victoires en 3 matchs. Doit-il changer de comportement, Vincent? C'est la question que je te pose. D'abord, un petit état des lieux, état de service, surtout de Ronan O'Gara, Wilfried.
Bah, il devient un habitué de la commission de discipline. Alors, faut remonter un peu pour la première fois. C'était en octobre 2017, alors qu'il faisait partie du staff du Racing. C'était lors d'un match face à La Rochelle, justement. Il est convoqué pour incorrection vis-à-vis d'un officiel de match. Et alors que son audition est, selon nos informations, assez tendue avec les membres de la commission, il écope de 10 semaines à l'époque de suspension et son club, le Racing, de 10 000 euros d'amende. C'est pas rien. Alors il quitte le Racing à l'issue de cette saison-là pour aller entraîner en Nouvelle-Zélande, mais il revient en France en 2019 à La Rochelle et en novembre 2021 contre Toulon, il est reconnu responsable d'une action contre un officiel de match, plus particulièrement de lui manquer de respect. 2 semaines de suspension pour lui et la même saison, au printemps suivant, cette fois-ci avec La Rochelle face au Racing, match retour, contestation des décisions des officiels de match, 2 semaines une nouvelle fois pour lui. Il avait même 2 convocations à la fois, souvenez-vous, au printemps pour son altercation, on s'en souvient avec Christophe Furios, à la mi-temps d'un UBB La Rochelle. Ce sera finalement un blâme pour chacun. Et nouvel épisode, tu l'as dit Pierre, à Lyon le 10 septembre dernier. La raison, manque de respect envers l'autorité d'un officiel de match. Alors lui, après la rencontre, il se demandait pourquoi il était convoqué. Bah, résultat, 6 semaines de suspension. Il retrouvera le bord des terrains le 31 octobre prochain. Pourtant, en début de saison, messieurs, le manager Rochelet avoue en conférence de presse vouloir et devoir améliorer son rapport avec les arbitres. C'est pas encore ça.
Est-ce qu'il faut qu'il se calme, Vincent, qu'il change ou bah, c'est son moteur?
Bah oui, bah, oui, non mais aussi, ouais. Ouais, c'est son moteur, mais il faut qu'il se calme quand même. Parce que son moteur, ça va bien, mais il est dans un travail qui, ben, qu'il faut qu'il montre d'abord l'exemple, parce qu'il a un groupe et c'est le taulier. Quand t'es entraîneur, faut quand même un peu montrer l'exemple de correction quand tu dis à tes joueurs de pas faire de faute, de pas se faire expulser, de pas parler à l'arbitre. Au rugby, c'est continuellement ne pas parler à l'arbitre, ne pas s'adresser. Tout le temps, t'entends ça toutes les semaines. Là, c'est régulier parce que tu sais que ça peut te coûter très cher de pas faire de faute, de pas prendre de carton rouge. Et toi, t'es le cancre. Toi, à la sortie, t'es le cancre, tu prends 6 semaines. Explique-moi, quand il revient dans l'entraînement, moi, je serai joueur. Quand je le vois arriver, je rigole quand même. Je dis, toi, tu me fais un raisonnement, ne me parle plus surtout, parce que, voilà, tu comprends. Et oui, non, il faut qu'il change. Il faut qu'il change, parce qu'il deviendra, il aura des gros soucis. Et puis, s'il veut encore progresser, parce que c'est un bon entraîneur, s'il veut encore progresser, ben, il va falloir que le moteur, il mette de l'huile dans son moteur. Tu vois, que ça fasse moins de bruit, que ça huile un peu, quoi. Tu vois, que ça graisse un peu les pistons.
Écoute, moi, je suis bien embêté parce que je dois lui donner des joueurs pour le match contre les Fidji.
Bon, pour moi, c'est honnête.
En français.
Dis-le que c'est
bon. Ah non, il est super.
Non, mais il est portable, personne ne le supporte.
Non, écoute, soyons sérieux. Pour être franc, je le connais un peu, je l'ai croisé quelques fois. Je l'ai eu au téléphone quelques fois aussi pour les sélections. Non, pas du tout. Mais non, mais pour les Barbarians, il est très agréable au téléphone, il est très agréable dans la vie. Mais après, il a un vrai problème avec lui-même, quoi, c'est tout. Donc, je pense qu'il.
Avec lui-même ou avec les arbitres?
Non, avec lui-même, je crois.
Il était comme ça sur le terrain, même pas, non?
Je crois pas. Non,
Si, c'est le même. Mais l'ouvreur irlandais, là, comment il s'appelle, là? C'est le même. Mais après, c'est des Kaisers, ça. C'est des Roses.
Non, mais il faut montrer l'exemple. Après, tu peux pas accepter des agissements où il gueule tout le temps, qu'il insulte les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas notre marque à nous dans le rugby. Lui, il a été élevé aussi à ça. Donc, il faut qu'il change, tout simplement.
Il serait aussi bon entraîneur s'il changeait. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Parce que parfois,
sincèrement, on m'a toujours dit qu'il était très bon entraîneur.
Oui,
tactiquement, techniquement.
Je pense qu'il serait meilleur.
Donc je pense qu'il serait meilleur. La preuve, c'est qu'il a les facultés pour entraîner ou c'est le meilleur.
Pierre-Laurent.
Je trouve la question d'Adrien pertinente et résume bien le sujet. Parce que moi, j'ai envie de le défendre. Je vais vous dire pourquoi. On se plaint tellement que les managers nous vendent leur sauce à aseptiser tout ça, que lui-même en conférence de presse, ce qu'il a avec les arbitres, je parle sous le contrôle de Wilfried, moi je l'ai découvert là cette année, j'ai fait la conférence de presse de rentrée qui était une conférence peinard, mais quand il n'est pas content d'une question, eh ben, il te rentre dedans, il te le dit, et puis la question d'après, il a oublié. Je crois, c'est pour ça ce que dit Adrien, je pense que ça fait partie de son ADN.
Mais ça excuse pas tout.
Non, il faut qu'il soit sanctionné, et lourdement. Mais je reviens à la question d'Adrien, est-ce qu'il ne serait pas moins bon entraîneur s'il n'était pas. C'était différent. Parce que c'est vrai que il est atypique dans notre top 14. C'est quelqu'un qui a un langage assez fleuri. Alors à La Rochelle, c'est
il a fait
c'est sa deuxième année tout seul. C'est sa deuxième année tout seul et il avait entraîné avec Jono Gibbs.
Il va prendre du recul automatiquement. C'est parce que c'est les premières années d'entraînement. Moi, j'ai connu Bob et Bernard et tout ça. Les premières années, c'était des infernales.
Ça fait plus de 10 ans.
Ça dure 10 ans quand même. 10 ans, ça peut durer 10 ans. Mais d'abord, il va se fatiguer de lui-même.
Et puis
les présidents vont lui dire oh papa, tu peux pas te comporter comme ça là.
J'allais le dire. Merling, le patron de Vincent Merling, le patron de La Rochelle, peut-être qu'à un moment donné il va lui dire écoute, c'est super ce que tu fais.
Là il y a 10 000 euros d'amende.
Il y a aussi l'image du club, vous, votre sport là, Vincent et Denis, avec le grand respect de l'arbitrage et tout ça. Au bout d'un moment, ça peut faire tâche. Et à chaque match, il met la voix de l'arbitre et il dit que les arbitres sont des pompes. Après, je peux comprendre.
Ça passe pas chez nous, ça.
Oui, ça passe pas.
Non.
Il peut y avoir un stress. Quand t'es manager de La Rochelle, tu peux stresser. Mais grand, t'as gagné la Champions Cup. Déjà, les résultats, tu les as eus. Ça aurait dû faire descendre un peu sa pression. Parce que je peux bien comprendre qu'il ait des obligations de résultats. T'es champion d'Europe. Ton équipe, elle est première du top 14. Elle a pas perdu. Peut-être que ça va lui redescendre la pression.
Oui, mais lui, il a fait gagner. C'est le seul qui a fait gagner La Rochelle. Après, un titre dans son histoire. Et après, je pense que lui, il a besoin de ça. Il a besoin de se nourrir de ça. Mais regarde les autres entraîneurs aujourd'hui. Tu prends Urios, tu prends Mola, ils sont nerveux. Ils sont tous nerveux. Sur la limite.
Ils sont chauds sur le bord du terrain.
Ils se parlent entre eux.
Ils sont à la limite. Donc c'est un métier qui rend fou.
Je vais défendre Hugo Mola. Il sait aller jusqu'à la limite. Hugo Mola ne dépasse jamais la limite. Et pourtant, et en plus, Hugo Mola suit l'entraînement et les matchs du bord de la pelouse.
Urios pareil. Et l'Irlandais pareil. Il est au bord de la pelouse, c'est ça.
Non, il est en tribune.
Ah, mais il est
fermé
dans la tribune.
Quand il s'est pris la tête avec Urios, il était sur le terrain.
Il descend avant la mi-temps. Là t'es président de club, tu dis stop, c'est fini, tu ne descends plus, je veux plus te voir, t'es en haut de les tribunes, et tout seul, et c'est tout. Tu fais comme ça, c'est terminé, tu veux pas l'avoir au bord jusqu'à nouvel ordre. Tu lui dis, t'as envie de vivre le match, parce qu'un entraîneur, il veut être au bord. Il veut être au bord parce que c'est là où tu vis le match, c'est là où t'es en direct avec tes joueurs. Donc là, si lui tu le punis quand tu fais ça, tu lui dis jusqu'à nouvel ordre, ben tu mets pas les pieds au bord du terrain, t'es en haut dans les tribunes.
Et voilà. Mais il est. Moi, je serais plus pour une sanction pédagogique qui passe ses diplômes d'arbitre, parce qu'il en est conscient et il le prend à froid avec qu'il a un problème avec les arbitres, et notamment après les matchs, il a besoin d'aller rediscuter avec les arbitres sur telle et telle décision, et il s'emporte avec son comportement. Donc il est conscient de ça. Il doit être sanctionné, et c'est très bien qu'il soit sanctionné lourdement. Ça, Vincent l'a dit. On nous l'a pas signé à l'école de rugby. L'arbitre, c'est chez nous, il doit être sacré. Ça, sans souci.
Mais je trouve que
le mettre en tribune, c'est pas une sanction parce qu'il est déjà en tribune.
Son comportement, pour moi, il est improductif total par rapport aux joueurs. Moi, j'ai toujours détesté les entraîneurs qui gueulent.
Non, mais ça gagne.
Ouais, ça gagne. Ah oui, bah, ah, évidemment, ça lui donne raison. Ouais, tu as raison. Non, mais en plus, tu as raison. Bah ouais. Ce truc-là, ça gagne. Alors, il a gagné contre le Leinster. Très bien, parfait. Mais moi, je pense pas que ce soit productif du tout. Je pense que les joueurs.
Je pense que les joueurs, c'est que si ça motive pas les joueurs, par un coach, il y a un peu comme ça.
Je sais pas, dans le sang, mais je pense que ça fatigue.
Ça fatigue.
Moi, je pense que ça fatigue.
Quelle est la une du Midi Olympique, Pierre-Laurent Gou?
On est sur Perpignan. On est un peu plus au sud que La Rochelle. Qui va fêter ses 120 ans. Non, ils vont fêter ses 120 ans. Alors, ça va mal. Oui, sportivement, ça va pas très bien. Tu as raison, Vincent. Qui a fêté ses 120 ans à l'occasion de Perpignan-Toulon. Donc voilà, on a titré une fête à ne pas gâcher. On a Vincent Missonnet qui est allé en reportage en début de semaine, voir Perpignan un peu la pression sportivement, mais c'est un des vieux clubs de notre championnat qui se débat pour rester en top 14.
C'est dur.
C'est dur. Et c'est un des rares clubs qui est très très habitué. Sur 120 ans, ils ont fait 115 ans dans l'élite. Donc c'est juste ces dernières années où ils sont. Voilà.
Perpignan qui reçoit Toulon samedi à 15h. Oui, nous, on a des places à vous offrir pour Bayonne-Bordeaux samedi 17h et pour Toulouse-Racing le match de 21h samedi.
On vous gâte.
Il suffit d'appeler le 32-16 pour ça. Oui, Stephen.
J'aimerais bien avoir une paire Ogara Dimeco qui cadille pour Fred Pouillet. Ça serait sympa, non?
Oui, là, ils sont pas vivants.
Ogara Dimeco, oui, là, ça serait dur. Ouais. Ça serait dur pour
Fred. C'est compliqué. Ouais.
Fred, il s'en fout, hein, lui, quand ils sont à lui. Tout ce qu'il veut, c'est que un mec s'énerve à l'antenne.
32-16, oui. Toulouse en ce moment, c'est plein. C'est Toulouse Racing, le match.
Toulouse Racing.
Donc là, c'est précieux. Hein. 32-16, Toulouse Racing, c'est gros match.
Pierre Laurent, merci beaucoup. Dans un instant, c'est Apostruf sur RMC.
La culture pour les truffes. Vincent. Marseille la rebelle. Marseille la pas contente.
Oh, tu me fais frisson.
Marseille la vexée, Vincent.
Oh, tu nous mets l'eau à la bouche, Adrien. On arrive tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Il est 15h46, le Super Moscato Show. On y revient, on mastique, on est sur RMC comme tous les jours de 15h à 18h. C'est le journal de la culture d'Adrien Gouet.
RMC, c'est l'heure d'Apostruf.
Humilité.
Dans le Super Moscato Show.
Mais c'est vrai que quand Luis Hernandez marque son pénalty en 86 pendant la Coupe du Monde, je me suis tourné vers ma mère et j'ai dit « Tu m'as gâché ma carrière.
» Eh oui,
il patoche.
Nouveau jingle dans Apostruf, la culture pour les truffes. Patrick Bruel.
Le pire, c'est. Est-ce qu'on peut dire que sa mère lui a cassé la voix?
Non, il a préféré faire des études parce que sa maman lui a fait faire des études. Ouais. Sinon, il aurait été joueur de foot professionnel avec Eric Dimeco, avec Luis
Hernandez. Il champion du monde. Peut-être qu'il aurait marqué le but. Il l'a vu comme finale.
Je me rappelle, c'est Spielberg quand il vient me voir pour le soldat Ryan à l'époque.
Les études.
Il vient me voir. Alors déjà, ma mère était contre. Et puis, comme je faisais du rugby, j'ai pas pu le faire. Tu vois. C'est fou, hein. Peut-être c'est dingue. Et puis, la vie, ça se joue à rien. Peut-être qu'après, j'aurais fait peut-être le truc de Matt Damon. C'est moi qui ai fait la vengeance dans la peau, tout ça.
Absolument. La culture pour les truffes. Parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. On prend la direction de Marseille. Bonjour, Eric Dimeco, il est avec nous.
Bonjour.
Puisque nous
non.
La direction de Marseille arrive.
Eric
arrive
10
minutes à l'avance.
Bonjour, les copines.
La rebelle, polémique, ville de Marseille.
Oui, non, mais c'est
jingle,
pas bon.
Ville de Marseille.
Mais l'accélération de N'Golo Kanté avec le petit relais et le piqué de main de.
C'est
expertise, tout simplement.
La semaine dernière, alerte rouge pour les Marseillais, la ville de Marseille. Je vous parlais d'une étude de l'INSEE humiliante pour Marseille. Marseille, cette ville qui devenait la troisième ville de France en nombre de terrains de pétanque publics, derrière Toulouse et derrière Reims. Et là, Marseille, donc la semaine dernière, quand ils ont lu dans la Provence cette étude de l'INSEE, c'est la panique. C'est la panique, ils ont plus quoi dire.
Merde.
Voilà.
Et vous venez de Paris pour ça?
Oui, on vient de Paris pour ça. C'est l'étude de l'INSEE, voilà. C'est les Parisiens, l'INSEE.
C'est Jacques-Claude.
Donc, dans la municipalité, c'est, j'ai envie de dire, branle-bas de combat. C'est comme ça qu'on dit. On a décidé de refaire les comptes. C'est le rôle de Sébastien Gibrayel, l'élu au sport de la ville de Marseille.
Fils d'Henri Gibrayel.
Et donc, il n'y a pas 77 boulodromes comme à Marseille, comme l'a dit l'Institut parisien, l'INSEE, parce que ce sont des Parisiens qui dirigent l'INSEE.
Ouais, bien sûr,
c'est pour ça qu'ils ont.
Mais finalement, Eric, finalement, comme on dit chez toi, il y en a 144. Donc, explication du journal La Provence, c'est dû au peu d'attention qu'aurait porté l'ancienne municipalité à la déclaration de son patrimoine. C'est curieux, on a mal déclaré le patrimoine à Marseille.
Ça nous arrive tous, n'est-ce pas, Vincent?
Donc, Sébastien Gibrayel a fait le tour des boulodromes avec son équipe, il a dit ils ont compté un par un, et finalement, il y en a, on peut leur faire confiance, Eric. Il n'y a pas de mensonge là-dessus.
Et ils sont allés sur le plateau d'Eric aussi pour voir s'il y a un
coup de mensonge. Combien 5,44 ouais. Ils n'ont pas compté le lit d'Eric. Ça faisait 5,45.
Donc, on essaie de faire des carreaux de temps en temps, même si c'est beaucoup plus rare. Hein.
Marseille,
on fait moins d'étincelles.
Marseille retrouve la première place, mais Marseille n'est toujours pas premier en nombre de terrains de boules par habitant. Bon, c'est pas grave. Et c'était un sujet tellement important à Marseille, quand même, que figurez-vous, c'était la une, Vincent, de la Provence hier.
Ouais,
grande photo avec un cochonnet, deux boules de pétanque. Avec ce titre.
Ils sont venus à la maison faire la photo.
Tenez-vous bien, la une de la Provence, à jamais les premiers. Voilà, sur les terrains de boules comme au foot.
Déjà, ils avaient perdu le Ricard.
Qu'est-ce qui se chauffe
tous, il paraît que c'est par habitant, il y a 12 rats, 12 Gaspard par habitant.
Mais vous rigolez, mais c'est vrai que c'est une ville avec une culture forte et une identité forte. Et donc, quand tu perds la première place au buveur de pastis, déjà tient les nerfs. Alors, s'il y a plus.
Eh bien, voilà, si vous voulez tenir.
Ce qui nous reste,
déjà le pastis, ils ont dit que c'était les Lyonnais.
Il reste qui Mapping, vous êtes premier.
Et ce qu'ils ont fait, et les Parisiens, ce qu'ils ont fait au pauvre Raoult. Ce qu'ils ont fait les Parisiens au pauvre Raoult, qui l'ont traité de tout. C'est honteux, les Parisiens encore. Ils supportaient pas d'avoir un mec plus intelligent qu'eux à Marseille. Ils ne supportaient pas ça.
Un commentaire, Eric ? Non, on passe en
tout. Non, mais je savais que tu le verrais parce que normalement, je t'envoie des captures d'écran quand il y a des trucs. Mais là, c'est la une de la Provence.
Jamais les premiers, c'est dingue.
Oui, fierté nationale. Les gars.
Notre spécialité.
Alors, attends, il faudrait savoir pourquoi ils ont caché ce patrimoine quand même. Ben, c'est ça qui est intéressant.
Alors, d'après moi, il y a quelques terrains de boules qui doivent être, je sais pas,
ça doit être des lessiveuses. Ouais, c'est-à-dire, tu sais, un boulodrome, il est éclairé. Mais ils ont dû se brancher chez les voisins pour éclairer les trucs, donc ils ne les déclarent pas, les trucs.
Sans transition, notre spécialité, on aime parler d'argent, mais pas du nôtre. Hein, de l'argent des autres.
Ah oui. Ah.
Gros plan sur une des figures emblématiques de l'émission mythique Fort Boyard. Depuis 32 ans, il est membre de Fort Boyard. André Boucher. Est-ce que vous connaissez André Boucher ?
Pas du tout.
Oui, c'est passe-partout.
La boule est décédée.
Passe-partout.
Une des stars.
La boule, il est passé à la trappe.
Avec la boule ?
Parce que parfois, on parle gros sous.
Il paraît qu'il fumait sous les douches, il t'a brûlé les roustons, il paraît.
Parfois, on parle un peu gros sous dans le Super Moscato Show. André Boucher, passe-partout, était l'invité de l'émission Chez Jordan. Et il a révélé. Quel était son salaire par émission de Fort Boyard par passe-partout aujourd'hui ?
500 euros.
Combien il gagne par émission ?
500 euros. Par émission, ouais. Je dirais.
C'est des millions de téléspectateurs, hein. C'est 2-3 millions.
Non, 500 euros.
1000 euros l'émission.
1000 euros l'émission pour.
Ouais.
500,
c'est bon.
Pierre Ricky
Mécon. Allez, combien d'émissions ?
Il y a la saison, c'est 10 émissions, la saison. Combien il touche à la saison alors
2005.
Par émission, Vincent ?
10 émissions.
Ouais, par émission, 2000 entre 2000 et 3000.
Pierrot,
ouais.
Je connais la réponse, mais j'aurais dit 1500, 2000.
2500.
Eh bien, André Boucher, passe-partout, Pépé, dans le jargon, touche par émission 300 euros, donc environ 3000 euros la saison de Fort Boyard.
Après, il y a des déclinaisons de Fort Boyard, il n'y a pas que le programme principal.
Oui, mais passe-partout, il ne fait pas les émissions dans les autres pays.
Ah, si, il l'a fait.
Ah, il l'a fait.
Il le fait plus.
Non, mais même, il y a
aujourd'hui.
Un programme pour les gosses aussi, non ?
Non, pour le coup, le Fort Boyard, quand on regarde, c'est 300 euros la prestation.
Alors, attention,
il explique, moi, sachez que moi, je me considère comme figurant, je ne parle pas, il ne parle jamais, c'est pour ça que ça joue aussi dans ma rémunération. Donc,
c'est pourquoi il parle pas parce qu'il fait des émissions. Il fait des émissions polonaises, espagnoles et tout ça.
En réalité, on ne se rend pas compte, mais c'est sur un laps de temps très court, puisque toutes les émissions sont enregistrées avant la saison. Et ils enregistrent, Vincent l'a dit, les Français, les Polonais, les Allemands.
Alors
et
après,
tout.
Dans le milieu, donc, on te dit que c'est un très petit salaire. Tout le monde est sur petit salaire.
D'accord.
Tout le monde est sur petit salaire.
Si tu as
de présence, il n'a pas de quoi s'acheter de la viande, André Boucher.
Okay. Ah non. D'accord.
Non, mais si tu fais, si tu fais 100 émissions dans la saison, tu t'es pris 30 000.
Non, mais quand même. Il les fait pas. D'abord, il les fait pas. Et puis même s'il fait 100 émissions, c'est beaucoup de boulot. Moi, je l'ai fait deux fois. Crois-moi que il rame pas. Le boucher.
Non, mais
j'étais invité deux fois. Je te jure que c'est long. En plus, je veux te dire, il caille parce qu'ils te le font faire au mois de mars, avril. Parce qu'il y a des émissions, ça commence en février, parce qu'ils passent tous les pays. Et ça caille et tout. Je trouve que c'est une exploitation de ce mec, mais incroyable.
Je rigolais tout à l'heure, mais en effet.
C'est catastrophique.
Quand j'ai fait Fort Boyard, il y avait Pascal Olmeta, il y avait Papin, il y avait Amoros.
C'est tous les amis des mecs.
Il y avait Yves Régnier, qui était notre capitaine. Et on avait joué au foot, parce que tu commences le matin, tu finis le soir, tu manges à midi. Et on avait joué au foot avec Passepartout et Passe-Temps. Et Pascal, il en faisait des reprises de volée. À bout portail, on les mettait gardiens.
Éric Dimeco, dans les années 90.
On les mettait gardiens, on faisait des reprises de volée.
Éric Dimeco, dans les années 90, face au Père Foras. Vous voulez l'énigme ?
Oui.
Éric Dimeco, avec ses cheveux longs, il arrive dans la tour face au Père Foras. On va voir s'il répond enfin une question, parce qu'au Kikadi, c'est moyen.
Inscrite dès notre naissance, on ne peut lui échapper. Chacun doit lui faire confiance, car on ne peut pas la changer.
Destiné.
Vous avez gagné, c'est destiné.
Bravo, c'était l'époque. Oui, Dimeco.
Indice, c'était Guy Marchand.
C'était dur.
Ah, mais tu l'as fait, donc tu le sais. C'était pas plus que t'as réuni la veille et pendant le repas. On t'explique comment ça va marcher et on s'amuse à faire des énigmes. Bon, moi c'était facile d'être plus fort que
Manu, Pascal.
Donc ils m'ont dit oh tu en as trouvé deux, tu es un génie, tu passes en recherche le Père Foras.
Est-ce que Julien Beneteau t'a envoyé la réponse ou pas?
Non.
Déjà, allez, dans un instant, nous allons parler de l'OM. Pablo Longoria est-il un bon président pour l'OM? Vincent règle le problème. C'est vrai qu'il est pourtant adoré à Marseille. Pourquoi poser la question? Soyez bien au rendez-vous après les infos à 16h. À tout de suite, c'est le Super Moscato Show.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show, on est sur RMC.
RMC, 15h-18h, le Super Moscato Show.